C'est moi, c'est Lola. Celle qui dit v'là un bateau, v'là un samedi, v'là des matelots.
Personnage en personne par Charles Danzig. Auteur Julian Semenov, 1931-1993. Écrivain, scénariste, soviétique, communiste, hétérosexuel. Œuvre, 14 romans en URSS, le plus fameux datant de 1968, ayant été traduit en français par une maison soviétique de Moscou, les éditions du Progrès, sous le titre 17 flashs pour le printemps en 1973, retraduit en France aux éditions du Canoë, sous le titre de la Taupe rouge en 2019. Personnage Max ou Otto von Stirlitz. Adaptation, une série télévisée à succès en URSS, Vyacheslav Tikhonov interprétant le rôle de Stirlitz. La plus grande imposture de l'histoire occidentale contemporaine aurait-elle été ce qu'on appelait la guerre idéologique entre l'Est et l'Ouest? Je ne nie pas que Staline ait eu des intentions dévorantes, mais quel était son bluff dans cette affaire et celui des Américains? En dehors des considérations stratégiques bien légitimes, quels intérêts industriels, économiques et financiers se sont-ils greffés sur le militaire pour créer de la propagande? Propagande destinée à maintenir un antagonisme qui aurait pu cesser plus vite afin de mieux assommer une URSS que l'on savait branlante. En quoi les couvertures de Paris Match qui disaient « Quand j'étais enfant, en 48 heures ils sont à Paris » sur une photo de char soviétique pouvaient-elles servir autre chose? Peut-être, mes spéculations sont-elles entièrement fausses, car en diplomatie comme en tout, le masque est peut-être l'essentiel et malgré les mensonges, le bourrage de crâne et la duplicité, cette guerre a peut-être eu lieu. En tout cas, personne n'a vraiment eu peur. La preuve réside dans la culture populaire. Les romans et surtout les films dits de James Bond montrent, comprenez, cette supposée guerre avec machisme et ironie à la fois. Je ne pense pas qu'aucun spectateur ait pris le personnage de James Bond autrement qu'en souriant. Le rideau de fer était si bien tiré que nous ignorions que les Soviétiques avaient leur espion qui se battait contre de méchants étrangers, Stirlitz, Max von Stirlitz. Il a un nom de naissance russe, Maxime Isaïev, mais par un paradoxe qui n'en est au fond pas un, il reste connu par cet alias qu'il a pris en Allemagne à la fin de la guerre, où il a été envoyé pour empêcher les nazis de se retourner avec les Américains contre l'URSS. Et ses romans des années 60 aux années 80, l'un d'eux suivi d'une série télévisée à succès, ont engendré un personnage qui reste très populaire en Russie. Il avait des aventures dans le passé, alors que celles de James Bond sont présentes. Après avoir été un héroïsme, le bolchevisme était devenu un gâtisme. Il y a fallu la chute de Staline, n'est-ce pas? Après tant de violence, l'URSS congelée n'a plus parlé de l'avenir radieux que machinalement, en s'accrochant au glorieux passé d'octobre et de la lutte contre le nazisme. L'auteur des romans, Julian Semenov, était un communiste hableur. Tout ce qui l'entoure a un léger parfum d'intoxication, comme le fait très douteux qu'il aurait été l'ami de Yuri Andropov, directeur du KGB, puis président du Présidium du Soviet suprême. Il faut sans doute aimer la hâblerie et qui sait, avoir une certaine naïveté pour créer un personnage d'espion. Qui est Max von Stirlitz pour en parler? Et à l'occasion du numéro spécial James Bond du Point, je reçois Jean-Luc Wachthausen, critique de cinéma dans le même magazine. Jean-Luc Wachthausen, si vous le voulez bien, nous allons étudier James Bond et en particulier dans ses rapports avec l'ennemi soviétique dans la première partie de cette émission pour passer dans la seconde au grand espion de l'Union soviétique, Max von Stirlitz. Pour commencer, il me semble que les films de James Bond ont apporté au personnage une très vague teinte d'anti-soviétisme parce que le premier Bond, Dr. No, n'a rien d'URSS en lui, si je puis dire, et il n'y a pas beaucoup de méchants soviétiques dans James Bond.
Non. James Bond n'est pas véritablement, comme le personnage de Ian Fleming d'ailleurs, anticommuniste. On est dans une atmosphère, c'est vrai, Dr. No et Bombay de Russie, qui effectivement est proche de l'Union soviétique, mais en même temps, quand on regarde le Dr. No, il y a des triades chinoises qui sont évoquées, et on se rend compte que finalement, les Russes sont assez loin de tout ça, les Soviétiques, pardon, et que les Chinois représentent une menace beaucoup plus réelle. Mais, encore une fois, Je ne pense pas que le héros de Ian Fleming soit complètement anticommuniste. Il a d'autres défauts, mais pas celui-là.
L'ennemi principal est d'ailleurs nommé dans les premiers, c'est la fameuse organisation criminelle.
Le Spectre. Tout à fait, oui, c'est le Spectre. Et le Spectre, finalement, c'est pas le service du contre-espionnage soviétique, c'est simplement un troisième ennemi, une puissance maléfique, et finalement ça permet aux auteurs, parce qu'il faut faire la différence en fait entre le roman d'Ian Fleming, les romans d'Ian Fleming, oui. et le James Bond que vont créer les producteurs la série Broccoli et Salzman, qui est totalement différent. Là aussi, c'est intéressant de voir que ce James Bond créé par dès 62 dans le Dr No, en fait va commencer une rupture entre guillemets avec l'univers de Ian Fleming des années 50, qui fleure bon quand même la vieille Angleterre, Churchill, et James Bond qui vont créer ce personnage représente une rupture, en fait. Je crois que c'est une théorie assez intéressante, avec cette Angleterre des années 60 qui va littéralement exploser à la fois en musique, en littérature, en cinéma. Et donc James Bond représente bien cette côté moderne qui va permettre au personnage d'éclater, et surtout de permettre à Ian Fleming, qui vendait pas beaucoup de livres avant la création du film, d'en vendre par millions.
Ah, les livres ne marchaient pas avant.
Disons qu'ils marchaient gentiment, ils étaient à 600 000, et à partir du moment où Dr No est un grand succès, ils passent le million.
Ce qui est intéressant, c'est qu'avant même la chute de l'Union soviétique, il y a une espèce d'inquiétude dans les films de Bond à propos de l'arme atomique et du fait que ça pourrait être volé par d'autres.
Bien sûr.
Et parfois même, c'est volé à l'Union soviétique.
Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que la guerre froide, finalement, elle commence à tiédir très très rapidement après la crise des missiles de Cuba, en 62, Khrouchtchev et les Américains vont reprendre un peu contact, entre guillemets, et c'est pas tant dans les films de James Bond, on voit que quand même, il y a un certain rapprochement et que l'ennemi est ailleurs. C'est une vraie menace, c'est la guerre nucléaire. Bon, alors, dans Dr. No, c'est vrai que les missiles sont pointés vers les États-Unis, donc ça a quand même une allusion à la crise des missiles de Cuba, mais en même temps, tout finit par s'arranger, en quelque sorte. Mais la menace est réellement nucléaire, et tout ça est très très bien montré dans, par exemple, dans Bon Baiser de Russie. James Bond 007 va faire équipe avec une certaine Tatiana, qui est issu des services secrets, qui va justement faire en sorte que le Spectre ne mette pas la main sur cet appareil très important.
Et il y a un film intéressant qui est L'espion qui m'aimait, et là où on voit quelque chose d'intéressant, c'est que si au début il y a des soupçons envers l'Union soviétique, à la fin ce qui se passe, c'est que James Bond réussit à déjouer un attentat conjoint contre New York et Moscou. Mmh. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que James Bond est l'espion de la détente?
Oh, je pense qu'il a représenté ça, en tous les cas, en quelque sorte, parce que même si ils n'ont pas vu venir, entre guillemets, la chute du mur de Berlin en 89, les scénaristes ont prôné la détente, dès l'arrivée de Roger Moore, quoi, en 73, et vont se tourner effectivement vers la menace nucléaire. Le danger sera plus, entre guillemets, viendra pas de l'Est, en tous les cas.
D'ailleurs, je crois, sauf erreur, vous savez ça mieux que moi, vous allez me le confirmer, qu'il y a en tout et pour tout un méchant russe dans James Bond, mais qui n'est pas en tant que soviétique. D'ailleurs, il tente de prendre le pouvoir aux soviétiques, c'est dans Octopussy, je crois, en 1987.
Exact, c'est le général Omornov, je sais plus comment il s'appelle. Lui, il est redoutable.
Ce qui est intéressant, d'ailleurs, il y a une espèce de préscience parfois chez les scénaristes de James Bond, c'est que dans ce méchant russe qui voudrait prendre le pouvoir, on dirait qu'il y a presque là-dedans la tentative de coup d'État contre Yeltsin.
Oui.
C'est-à-dire le pouvoir réactionnaire russe qui pourrait se mettre en place.
Et arrive très vite aussi la notion que s'installe une mafia qui est incontrôlable et qui là est réellement dangereuse, parce qu'on connaît pas son ennemi, on sait qu'il est très dangereux, et tout ça arrive très vite dans les films suivants, hein, ensuite jusqu'à même Skyfall.
Oui, et ce qui arrive très très vite aussi à nouveau, c'est les après la chute de l'URSS, ce qui avait déjà été pressenti, c'est-à-dire que le danger des armes atomiques risque de passer à des voyous, et je crois qu'on voit ça dans GoldenEye.
Exact. Hein, oui. Et bien vite, c'est vrai, la guerre froide n'existe plus depuis longtemps, et la chute du mur, bon, est symbolisée par le générique du film. L'espion qui m'aimait, on voit les icônes staliniennes, etc., s'écrouler à l'écran.
Ce qui est intéressant avec James Bond, qui est parfois, surtout dans les films, vous l'avez dit, il y a une distinction à faire entre le James Bond des romans, surtout au début, et le James Bond des films. Le James Bond de Fleming est plutôt un cynique, buveur, assassin d'ailleurs, très, c'est ça.
Et ça, ils ont, les auteurs, les producteurs ont très vite compris qu'il fallait faire de James Bond non pas un réac, comme malheureusement l'était Ian Fleming, et en faire plutôt quelqu'un de moderne. En fait, c'est que autant dans les livres de Ian Fleming, Bond 007 est assez plutôt noceur, etc. Autant dans les films qui ont été montés donc au cinéma, ils font de James Bond quelqu'un de rebelle. C'est ça qui est intéressant. Il est rebelle. Il est à la fois moderne. Il a peur de rien et en plus il s'oppose un peu à sa hiérarchie, à M et à Q, et on lui dit toujours faites pas de bêtises, etc. Il a un côté très rebelle qu'avait d'ailleurs naturellement l'interprète principal Sean Connery.
D'ailleurs, ça serait intéressant de faire une étude sur l'évolution même du personnage en fonction des interprètes. Roger Moore était plus raide et plus ironique d'ailleurs.
Bah lui il dit moi j'ai fait plus un rôle de coureur de jupons. Il a eu une mission disons un peu plus désinvolte, ce qui a lui reproché beaucoup les fans de James Bond. Parce qu'en fait il prenait pas le personnage au sérieux. Il pensait que à l'époque était passée, qu'on ne pouvait pas être au premier degré, donc il l'a fait, voilà.
Mais et ensuite, il y a eu un bref intervalle, Timothy Dalton,
qui n'est pas resté très longtemps, malheureusement, qui a été vite remplacé par Pierce Brosnan. Il y a eu...
Qu'est-ce qu'il apporte, Brosnan, comme différence, vous diriez?
Brosnan, une certaine gravité qu'on retrouve également dans Sean Connery. Mmh. Si vous regardez Sean Connery, il y a une certaine gravité dans son jeu, et que Pierce Brosnan avait également, je veux dire, dans sa façon de jouer. Il avait un peu une rigueur comme ça, très, très britannique, et en même temps une certaine humanité. On voit déjà que le personnage de James Bond change, ne serait-ce que dans ses rapports avec les femmes. Mmh. Il est beaucoup plus, entre guillemets, chevaleresque, même si Sean Connery, il est un peu macho, mais il prend soin des personnes, des Bond girls qui l'accompagnent, que ce soit Ursula Andress ou l'actrice italienne qui joue Tatiana dans Bon Baiser de Russie. Il est quand même, il est prévenant, il est protecteur, entre guillemets, mais il est toujours macho.
Alors que Daniel Craig, ça change beaucoup. Et alors pour moi, là, j'ai une théorie, c'est que James Bond avec Daniel Craig est devenu une James Bond girl, car l'arrivée de Craig dans le premier film où il sort de l'eau en petit maillot, exactement comme Ursula Andress sortait. Et je pense qu'il y a un côté chez lui beaucoup plus fragile, et c'est presque, je vais intentionnellement exagérer, mais c'est presque un personnage beckettien.
Oui, tout à fait. Hein? Mais c'est voulu, ça aussi. C'est l'évolution du personnage qui fait qu'aujourd'hui, James Bond, il passe les années, il traverse les années parce que le personnage a évolué. Je pense que le prochain James Bond va être aussi... On va découvrir un autre James Bond, je pense.
Et ça, alors, dans l'absolu, sans revenir aux interprètes, ce qu'il y a de frappant chez Bond, c'est que, comme vous le disiez, Jean-Luc Vachtozen, c'est un rebelle, mais il n'est rebelle que vis-à-vis de sa hiérarchie, parce que c'est quand même un employé de l'État, et il est au service des États.
Oui, tout à fait, du MI6, il sait très bien ce qu'il fait, mais en même temps, bon, il a ce côté un peu rigide de commandeur, de commandant de frégate, et en même temps, de joueur, il est très joueur, il est capable de prendre des risques énormes, que ce soit au jeu ou même dans les scènes d'action ou contre ses ennemis, mais il garde toujours effectivement ce côté quand même un peu discipliné, il faut bien le dire.
Oui. Je veux dire, bon. Et puis quand même, c'est un technicien à la fin, parce qu'il fait ce pour quoi il est payé, qui est le plus souvent tuer ou empêcher les méchants d'être là. Il n'a pas beaucoup de sentiments. La différence avec les romans, c'est que dans les romans, Fleming a voulu le faire cool et arrogant, comme le sont d'ailleurs en général les gens cool. Ouais. Et dans les films, sa violence est moins apparente, mais c'est quand même un cynique. Et ça se voit dans ses rapports aux femmes, non ?
Je ne sais pas si on peut dire cynique. Non. Je dirais qu'il a des rapports aux femmes, c'est vrai, assez assez machiste. Hein. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça serait pas possible. Il faut pas non plus... je veux dire, dans Bon Baiser de Russie, il y a des scènes où on lui dit « bouge-toi, pousse-toi ». Enfin bon, on le connaît, c'est lui qui prend les choses en main. Alors qu'aujourd'hui, dans les rôles, par exemple, de Léa Seydoux, d'Eva Green et tout ça, les femmes ont beaucoup plus d'importance. Bien sûr. Elles sont pas des James Bond girls. Elles sont jolies, mais en même temps, elles sont intelligentes. Bah. Et elles ont la possibilité de mener l'action, quoi.
Jean-Luc Vachtozen, j'ai assez tendance à penser que le Brexit est un produit du délire nationaliste anglais entretenu par une vision délirante de la Deuxième Guerre mondiale, qui les persuade qu'ils ont gagné tout seuls contre Hitler. Ça se voit dans beaucoup de films, d'ailleurs, et dans la culture populaire. Mmh. Et je pense que les films de James Bond ont contribué à ça.
Mais peut-être, mais en même temps, ils rompent. Les récents James Bond, vous voulez dire, ou
non,
tous les James Bond?
Tous les James Bond.
Ah, tous les James Bond.
Pas les récents d'années.
En même temps,
dans les
années 60, ils rompent quand même avec le système. James Bond est beaucoup plus moderne. Il est dans la lignée de ce qui va se passer dans le Swinging London, dans la musique rock.
Ah, vous trouvez?
Ah, je trouve, oui. Il a un côté quand même beaucoup plus moderne qui rompt avec l'image d'une Angleterre un peu retourner sur elle, rancie, etc. Ce que peut donner aujourd'hui l'image du Brexit. Et en même temps, ils sont fiers d'être anglais. Pourquoi ? Parce que il faut bien dire que le succès phénoménal de la saga Bond est dû quand même aux Anglais. C'est encore une fois les Anglais au service, enfin, pour le cinéma américain. C'est produit par les Américains, mais c'est Terence Young, c'est Guy Hamilton, c'est des metteurs en scène anglais, c'est des acteurs anglais ou écossais ou irlandais. Et ils apportent beaucoup. Je veux dire, je pense qu'on pourrait très bien dire que Sean Connery, à un certain niveau dans les années 60, représente ce qu'a représenté Cary Grant dans les années 40. C'est-à-dire une certaine élégance, c'est un film d'action, c'est différent. Mais
c'est un peu les Rolling Stones ou les Beatles arrivés en Amérique, ça pourrait être ça.
En tous les cas, c'est quelqu'un qui a une présence, Sean Connery, qui a une virilité. Et il a d'ailleurs été choisi par une femme qui était la Dana Broccoli, qui est la femme du producteur, qui en l'ayant vu a tout de suite dit c'est lui son personnage, c'est lui, il faut le prendre, il faut l'engager. Quoi. Il est beau, il est grand, il est viril, il est poilu, comme on dit. Il représente l'homme viril des années 60.
Sean Connery. Il y aurait une histoire à faire des acteurs qui ont été choisi par les femmes de producteurs ou de metteurs en scène. Delon a été choisi par la femme de René Clément.
Exactement. Ça, ouais. Et elle, c'est elle qui est... Parce que Ian Fleming n'en voulait pas. Il trouvait que c'était un bodybuilder un peu trop... qui avait trop grandi.
Ah. Il n'était pas boxeur un peu comme
si,
ça
Si, c'est si,
ça,
si, il est boxeur. Il a tout fait. Il a tout fait, Sean Connery. Boxeur, cireur de cercueil.
Pas manucure.
Livreur de lait. Fait. Celui qui en parle très bien, d'ailleurs, c'est son ami Michael Caine qui dit il a beaucoup travaillé pour réussir, quoi. Ils en parlent beaucoup, ils ont joué au théâtre ensemble, etc. Et c'est la même génération, en fait. Voilà.
Nous allons maintenant entendre un extrait de la 7e symphonie de Tchostakovitch, créée en 1942, et qui exalte la résistance à l'Allemagne, qui avait, bien entendu, envahi l'URSS à cette époque-là. Direction d'orchestre, Maris Jansons, c'est un enregistrement de 2019. Jean-Luc Vachthozen, les Occidentaux ont eu James Bond, nous en avons parlé dans la première partie de ce personnage en personne, et les Soviétiques, Max ou Otto von Stirlitz. Je voudrais d'abord, comme il est très peu connu en France, que vous me disiez qui est Semenov, le romancier qui a créé le personnage.
Eh bien, Semenov, il a une vie aussi très intéressante, je trouve, parce que, avec quelques similitudes d'ailleurs avec Ian Fleming, il était journaliste. Il a fait des études supérieures, l'Institut des langues orientales, comme Ian Fleming avait fait Eton d'ailleurs. Et Semenov, donc en fait, ce qui m'intéresse en lui, ce que je trouve très intéressant, c'est que c'est vraiment le type même du baroudeur qui est dans le système communiste, mais qui en même temps a une ouverture d'esprit parce qu'il va beaucoup voyager dans sa vie. Il va être sur le théâtre de beaucoup de guerres, que ce soit au Vietnam, au Laos, il est allé en Afghanistan, il est allé à Cuba.
Je crois qu'il était correspondant pour des journaux, c'est ça?
C'est ça. Et donc ça lui a donné une ouverture d'esprit qui a de toute façon alimenté énormément son œuvre, ses bouquins, ses polars. Et donc ce qui est intéressant, c'est justement ce regard qu'il va porter, non pas critique, mais disons en tous les cas ouvert, et qui nous permet de mieux comprendre de l'intérieur à la fois le système soviétique et surtout ce qu'il va faire avec le personnage qu'il va inventer, donc Stirlitz, et qui lui permet justement de donner toute sa connaissance des dossiers, puisque c'était un homme qui avait beaucoup consulté les archives, et puis qui connaissait très bien toutes les arcanes du KGB.
Il faut dire qu'il était membre du parti communiste et qu'il était aussi membre puis secrétaire de l'Union des écrivains, donc il était tout à fait dans le système.
Mais il paraît qu'il n'avait pas sa carte, est-ce que c'est vrai?
Ah, je ne sais pas. Bah, ça fait partie de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire le côté un peu légendaire qui est un peu intoxiqueur. On sentait bien que lui aussi voulait se créer une légende.
Oui, certainement, hein, certainement. Donc il est ami avec Simenon, qui voit en lui vraiment un grand écrivain. Il est ami avec Graham Greene, qui est aussi un écrivain espion, qui fut un écrivain espion.
Bien meilleur, faut dire, parce que je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais les romans de Semenov sont sympathiques, mais c'est même un petit peu moins bien qu'Ian Fleming, non? C'est des dialogues, il y a des coïncidences, enfin,
j'ai,
des coups
moi,
de
j'ai
théâtre.
Lu surtout la
Taupe Rouge.
La Taupe Rouge, bon, que j'ai trouvé plutôt intéressant, enfin sympa.
Voilà,
à lire,
voilà, c'est ça.
Mais vous savez, Ian Fleming aussi disait, je fais de la littérature de gare. Hein,
Alors, il faut dire, avant de venir au personnage du roman, que Stirlitz est resté très très populaire en Russie, car il y a eu une série télévisée que j'évoquais dans ma présentation et dont j'ai vu qu'à chaque fois qu'elle était diffusée, chaque épisode était vu par 50 à 80 millions de personnes.
Oui.
Et si on rapporte ça à la population française, ça voudrait dire quelque chose comme 20 millions de téléspectateurs. Mmh. C'est comme si 20 millions de Français se mettaient tous les soirs devant.
Et c'est
donc c'est resté très 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 connu.
Oui. Et c'est vrai qu'on voit que Gorbatchev, Brejnev, même Poutine, sont très impressionnés par cet agent qui représente une certaine fierté nationale, sans doute, une certaine Russie aussi, telle qu'il la conçoit. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'un personnage comme ça, qui est très intéressant, je trouve, qui est incarné par le comédien dont vous parliez, qui est une sorte de beau ténébreux,
Tironov,
etc., n'est pas inspiré un cinéaste russe pour faire une série. C'est un beau film. Alors, je vois que Semenov est ami avec Nikita Mikhalkov, avec Konchalovsky. Comment se fait-il? Pourquoi? Parce qu'il n'était pas en odeur de sainteté, j'en sais rien. N'ont pas eu l'idée de monter une série qui soit le pendant de 007, qui aurait été formidable.
Bah, ça vient peut-être du fait qu'il devait être un peu traité par-dessous la jambe. C'était un auteur de romans populaires et Mikhalkov, c'était quand même un cinéaste plus recherché. Donc, est-ce qu'ils y auraient même pensé?
Oui, mais vu le succès populaire, ça aurait été formidable, trouve.
C'est vrai.
Et je suis un peu étonné parce que, je veux dire, il y a une atmosphère, il y a un personnage, il y a quand même dans la Taupe Rouge, à Berlin 45, je veux dire, il y a une matière cinématographique, entre guillemets, assez importante, assez formidable, et ça n'a pas été fait.
Vous avez raison. Alors, puisque vous étiez à Berlin, restez-y, si je puis dire.
Ouais.
Donc, ce personnage a un nom d'état civil qui est Maxime Estaïev, et dites-moi comment il devient un Stirlitz. Alors.
Eh bien, il devient Stirlitz en devenant agent double, en quelque sorte, en s'infiltrant parmi les nazis, parce que les nazis, essayent évidemment de négocier, de sauver leur peau, et lui est chargé justement de les démasquer. Sa mission, elle est là, quoi. En quelque sorte, c'est une immersion totale au sein du régime nazi par un homme qui vient communiste, en quelque sorte, par le régime communiste. C'est une vision de deux mondes, en quelque sorte.
Tout à fait. Et alors, vous disiez qu'il était très renseigné, et ce fait-là, qui est l'argument de la Taupe Rouge, est tout à fait authentique. On sait tout à fait que des gens de la Wehrmacht ont essayé de se retourner.
Bien sûr.
Et il y a même une anecdote pas très connue, qui est que des gens de la Luftwaffe, quand Eisenhower avait déjà mis le pied en Allemagne, sont allés le voir pour lui proposer le plan des V2 s'il se retournait avec eux contre Staline. Et Eisenhower a eu, pour moi, la plus belle réplique qui soit au monde. Mmh. Il les a regardés calmement et il a dit non. Et ce qui est intéressant, donc il y a 14 romans où Stirlitz intervient, écrit par Semenov. Mmh. Ce qui m'a frappé, c'est que c'est toujours dans le passé. Ça n'est jamais contemporain comme James Bond.
Ouais.
C'est dans le passé, comme s'il y avait l'idée de se raccrocher à la gloire de la.
Oui, oui, je pense. Il y a ce sentiment. C'est un sentiment national très fort. Et ça se comprend très bien, parce que bon, la Russie représente quelque chose de très grand, enfin même aujourd'hui, je trouve, pour nous, enfin tous les cas, Saint-Pétersbourg et toute une histoire extraordinaire, mais qui était sans doute occultée par le stalinisme aussi.
Oui,
Semenov est bien placé pour le savoir, par son père, qui a été quand même condamné aux purges, qui a été le premier envoyé au goulag, et en même temps, on sent qu'il en veut pas tellement au petit peur des peuples, j'en sais rien, c'est bizarre, mais voilà quoi, c'est quand même un drame qu'il a touché directement sa famille, mais qui ne l'a pas empêché de croire toujours encore, je pense, c'est un bon communiste, il croit encore au système, je pense, je peux peut-être me tromper, mais
je
le vois comme ça en tous les cas.
Il y a quelque chose dans Stirlitz, c'est Ménov, je ne sais pas, mais dans le personnage de Stirlitz qui ressemble tout à fait probablement à l'histoire des premiers communistes et même à celle de Staline, c'est-à-dire que quand on voit les romans les plus anciens de Semenov, ça se passe au moment de la guerre civile, c'est-à-dire quand les armées blanches essayaient de renverser les communistes. On dirait qu'il est passé du bolchevisme au patriotisme.
Oui.
Et en cela, il ressemble beaucoup aux Russes. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a eu un élément d'identification très, très facile pour eux.
Oui, tout à fait. Et je lisais alors que beaucoup de lecteurs, enfin d'admirateurs en tout cas de Stirlitz et de Semenov, ils identifiaient ce héros à Poutine. Alors je sais pas, c'est la seule au parcours de Poutine. J'ai lu ça dans quelques
articles.
Oui,
j'ai lu ça aussi.
C'est assez étonnant, mais Poutine représentant aujourd'hui peut-être pour beaucoup de Russes une espèce de entre guillemets de retour à la grandeur. Impérial, je peux peut-être me tromper.
Alors, ce qui est intéressant, si on le compare à James Bond et qui est révélateur au fond du moralisme qui était aussi le marxisme, c'est qu'il n'a pas d'aventure avec des filles. Non. En particulier dans la Taupe Rouge, on le sait très bien, puisqu'il fait partie de la Gestapo qu'il a infiltrée et qu'il y a des rapports de la Gestapo et il n'y a pas d'histoire de
filles. Il est célibataire,
voilà.
Il refuse toutes les avances, il a un côté très
puritain,
communiste. Puritain. Ouais. Alors que James Bond, c'est tout le contraire.
Et voilà.
Presque à l'excès.
À l'excès. Et de la même façon, alors que James Bond tue assez volontiers, Stirlitz n'est pas violent et dans toute sa carrière, je peux dire, de personnage, il a tué une seule personne.
Oui, il paraît-il un méchant.
Voilà.
Un méchant.
Voilà.
Donc, c'est totalement différent.
C'est un rapport
totalement différent. Ouais. Et en même temps, c'est des héros de fiction qui arrive comme ça à nous parler directement, quoi, je crois.
Oui, tout à fait. Et là où il me paraît représentatif aussi et très intéressant de son pays, c'est que Stirlitz, dans aucune de ses aventures, n'a le moindre rapport avec les États-Unis. Mmh. On a vu que James Bond en avait tout de même un petit peu, même si c'était indirect. Eux, pas du tout. Et en ça, il ressemble tout à fait à l'esprit autarcique de l'Union soviétique. C'est-à-dire, on dirait, c'est un personnage autarcique, comme l'URSS l'a été.
Il y a des personnages de la CIA, quand même, qui interviennent.
Non, parce que c'est tout à fait accepté. Non, c'est pas crucial. Mm-hmm. Et donc, il est autarcique comme l'URSS l'a été. Mm-hmm. Et peut-être que c'est pour ça aussi que cette méconnaissance du monde, ou cette volonté de ne pas connaître le monde extérieur a aussi fini par nuire à l'URSS, outre beaucoup de choses.
Oui, bien sûr.
Jean-Luc Vachtosen, que vous a appris le personnage de Stirlitz?
Une certaine humilité, une certaine rigueur. Après... je partage pas toutes ses convictions, mais en même temps, le personnage me touche, quoi, parce qu'il a un côté soldat chez lui qui est assez étonnant, une rigueur, et puis on peut dire peut-être, je pense, une certaine foi en tous les cas, hein, comme un bon soldat soviétique du régime en tous les cas. Je trouve qu'à ce niveau-là, il est assez touchant. Après, je trouve que il illustre bien, pour moi, l'homme russe et cette ambiance qu'on peut retrouver dans les romans, cette espèce de l'atmosphère qui est très 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 russe, quoi. Je veux dire, il faut bien dire les choses. Et au cinéma, par exemple, vous voyez, c'est assez étonnant, mais je trouve que les Américains ont très très bien restitué cette ambiance. Par exemple, quand vous avez La Maison Russie avec Sean Connery et Michel Pfeiffer, on est complètement sur, plongé dans l'atmosphère de la Place Rouge, du Kremlin, de tout ça. Et là, bon, là, c'est un peu différent, mais je veux dire, si on aime cette atmosphère-là, on est plongé dans cette atmosphère-là. Et je trouve que Stirlitz, Semenov, restitue bien cette atmosphère russe ou soviétique, comme on veut.
C'était Personnage en personne, le 110e. La semaine prochaine, je parlerai de la personne de Roy Cohn, transformée en personnage par Tony Kushner dans Angels in America.
Comme si j'étais assis là-haut au paradis.
Réalisation Clotilde Pivin, attachée de production Meryl Moneghetti, prise de son Valérie Lavalard.
De ma vie, le paradis acquis.
Dans un instant, Victor Massé de L'Épinay et
c'était
le Rayon BD.
Un grand jeudi. Paradis de l'autre côté de la rue, mon paradis.